dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6. On va lire simplement deux versets. Apocalypse, chapitre 6, et les versets 3 et 4. « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval, roux, celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Amen. » La seconde lecture, très courte, se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, simplement le verset 3, un verset bien connu. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. » Et pour terminer, dans le psaume 85, d'ailleurs il y a un cantique tout à l'heure qui a commencé mot à mot par le verset 9. On va lire ce verset. « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Amen. » Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. L'an passé, le 21 mars 2024, les Nations Unies ont tenu leur Assemblée Générale, comme ils le font régulièrement, pour mettre officiellement en avant la valeur de l'année suivante. Et une résolution des Nations Unies a été décrétée. L'année 2025 est appelée l'année internationale de la paix et de la confiance. Mot à mot. Le 2 janvier de cette nouvelle année s'est produit le premier féminicide en France, dans le nord du pays. À la Nouvelle-Orléans, vous avez tous entendu parler de cet homme complètement désaxé, radicalisé, qui va foncer sur une foule compacte, tuer 15 personnes, en blesser 30 autres. Vous avez entendu parler de ce véhicule qui explose au pied d'un hôtel aux États-Unis. Nous entendons parler régulièrement, quotidiennement, de tout ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie, l'Ukraine, cette guerre, ces dizaines de milliers de morts, ces enfants, ces femmes, ces maisons ruinées, les larmes qui sont versées. Nous observons, et même en France, la violence qui augmente à une vitesse fulgurante. Elle augmente tant en gravité qu'en nombre. Des enfants deviennent aujourd'hui des criminels. Des enfants tuent aujourd'hui. Des adolescents giflent leurs professeurs. Des parents d'élèves giflent les professeurs. C'est un phénomène qui est là devant nos yeux, devant nos yeux. L'angoisse grandit. La Bible parle de l'angoisse des nations. L'angoisse grandit. On ne peut plus vraiment parler de quartier chaud dans certaines mégapoles en France. Mais il y a des villages chauds même, il y a des campagnes chaudes. Il y a des cambriolages avec des agressions d'une férocité impressionnante qui se font dans des villages pépères. Des villages qui étaient réputés comme des lieux de repos. Même l'âge vénérable ne freine pas les gens mal intentionnés. On s'infiltre chez un septuagénaire. Moi, j'arrive dans le club des septuagénaires bientôt. Et bien, même quand on est septuagénaire, l'âge ne nous garantit pas un minimum de considération, de respect. On entre, on malmène, on moleste, on fracasse, on vole, on cambriole. Et la conscience de ces individus semble ne plus fonctionner. Et ce n'est pas des cas isolés, c'est un phénomène général. Et j'imagine que lorsque ces Nations Unies ont eu cette fameuse Assemblée Générale, elles ont cherché à remettre en valeur certaines notions que l'humanité perd de vue et dont elle s'éloigne de plus en plus. L'année internationale de la paix et de la confiance. Il y a bien longtemps, dans les Saintes Écritures, et nous venons de le lire, Dieu nous avertit qu'il y aurait un temps et un contexte mondial dans lequel les hommes diront « paix ». Paix et sûreté. C'est comme un cri de détresse. C'est comme si l'humanité exprimait une frustration et un besoin impérieux. C'est comme si l'humanité disait, nous aspirons à la paix. Paix et sûreté. Et on peut faire des sommets, des colloques, des conférences, on peut signer des documents officiels, tamponnés, datés, et on peut faire toutes les démarches diplomatiques, politiques, les plus sincères, les mieux intentionnées. Il y a quand même une observation qu'on est obligé d'admettre, c'est que plus l'humanité exprime le désir de connaître la paix, plus le monde s'enfonce dans la douleur, le chaos, dans la violence et dans la guerre et toutes sortes de fléaux. C'est intentionnellement, bien sûr, que je vous ai proposé que nous lisions ce premier texte dans l'Apocalypse, où il est question d'un cavalier qui chevauche un cheval roux et auquel il a été donné le pouvoir, eh bien, d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Quel tableau saisissant, violent, sauvage. Mais il est triste d'admettre que cette parole, elle se confirme sous nos yeux. Il y a des actes de plus en plus immondes qui se manifestent. Et puis, il y a ce merveilleux texte du psaume 85 où c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Ah, quand c'est Dieu qui parle, il faut tendre l'oreille, hein. Les choses se dégradent, l'angoisse mondiale grandit, mais Dieu, qui est sur son trône, se tourne vers un peuple très particulier, qui est son peuple, composé de ses fidèles, et à son peuple, Dieu tient un discours, un langage, qu'on va essayer de décortiquer ce matin. Le psaume 85 dit « Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. » Ce n'est pas une résolution des Nations Unies qui suffira à instaurer la paix. Mais quand Dieu ouvre la bouche pour faire entendre sa parole à des destinataires bien précis, et tu en fais partie, j'espère, qui ne fait pas partie encore du peuple de Dieu, dépêche-toi d'en faire partie. Parce qu'il y a un peuple privilégié, un peuple pourvu, un peuple garanti, un peuple bénéficiant de toute la sollicitude divine. Et ce peuple, je t'en supplie, hâte-toi d'en faire partie. Fais-tu partie du peuple de Dieu, parce que c'est à son peuple que Dieu parle de paix. Il n'y a rien, je le crois, de plus urgent que de se convertir à Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus urgent. Et il n'y a pas non plus de ruse plus redoutable que celle de reporter à demain la décision de donner son cœur à Jésus. Si quelqu'un ce matin, et je le dis de tout mon cœur et avec vraiment sincérité, si quelqu'un n'a pas encore pris la décision de donner son cœur à Jésus, dépêche-toi, parce que on n'a pas le temps. Parce qu'il y a un train qui est sur le quai de la gare et il va démarrer. Et si tu rates le train, c'est l'image pour moi de l'enlèvement de l'Église, vous avez compris. Si tu rates le train, il n'y en aura pas un deuxième pour les retardataires. Dépêche-toi d'entrer dans le train du salut pendant que c'est possible. En vous parlant comme ça, il y a deux petites anecdotes personnelles qui me reviennent à l'esprit. J'étais, moi, un jour dans le train. Alors, j'étais bien. Et à un moment donné, les portes se ferment. Le train se met en mouvement et à travers la vitre, je vois un jeune homme qui surgit avec une jolie mallette et qui court pour attraper le train et... Sur son visage, il y a eu, au ralenti, une succession d'expressions que j'ai pu lire. Au début, l'espoir d'attraper le train. Et puis, il y a un moment, un peu après, l'expression, eh ben, finalement, de la renonciation. Il fallait bien qu'il accepte qu'il a raté le train. Moi, je prie pour que personne ne rate le train. Que lorsque l'archange prononcera sa voix et que la trompette de Dieu se fera entendre, lorsque tous les morts en Christ ressusciteront et les vivants transformés en un éclair seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, tu en fasses partie. Amen. Ne reste pas sur le quai. Ne perds pas ton temps. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. C'est quelque chose que je voulais partager avec beaucoup de solennité et d'amour ce matin. Si tu ne fais pas partie de son peuple, dépêche-toi d'en faire partie. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Laisse les illusions du monde et attache-toi à l'espérance des croyants, à l'espérance de la foi. Que Dieu soit béni. Alors bien sûr, à son peuple, à ses fidèles, Dieu tient un certain langage. Il parle de paix à son peuple. Alors s'il y en a un qui peut vraiment parler de paix, c'est Dieu. Amen. Ouais. Si vous demandez à un aveugle de parler sous les couleurs, ça va être problématique. Si vous demandez à un cochon de parler sous la propreté, ça va être problématique. Il ne sait pas ce que c'est. Mais quand c'est Dieu qui parle de paix, il peut parler de paix parce qu'il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de paix. D'ailleurs, il est la seule source de la paix véritable. C'est la paix de Dieu, on va en reparler tout à l'heure, qui surpasse toute intelligence. Mais avant de parler de la paix de Dieu, j'aimerais vous parler du Dieu de paix. Yahvé, Shalom. Il peut parler de paix parce que profondément, sa nature en est imprégnée. Il est Yahvé, Shalom, le Dieu de la paix. Et ce mot Shalom, vous le savez, et on a eu l'occasion d'en parler déjà dans les mois passés, ce mot Shalom, c'est un mot très fort. Bien sûr que c'est la paix, mais c'est une paix indescriptible, c'est une paix qui me comble, c'est une paix qui remplit tout mon être, c'est une paix qui n'est pas à la dimension humaine, ce n'est pas une paix fragile, limitée, fragmentaire, parcellaire, c'est une paix parfaite. C'est une sérénité, une assurance, une sécurité, une force intérieure. C'est un bien-être total qui ne dépend pas des circonstances. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. C'est ça, Shalom. C'est un plein bonheur qui n'est pas en relation avec ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends, mais qui est en rapport avec ma communion avec Dieu. C'est Shalom. Il est le Dieu de paix. Il peut parler de paix. Jésus lui-même, deuxième personne de la Trinité, est appelé le prince de la paix. Amen. Et l'Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité, produit en nous le fruit dans lequel il y a l'amour, la joie, la paix. Donc, Dieu parle d'un sujet qu'il connaît. Et laissez-moi ajouter ceci, c'est que quand Dieu parle, sa parole, c'est pas que du son. Vous le savez. Sa parole équivaut à l'accomplissement. Quand il parle, la chose qu'il nomme existe. Amen. Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Dieu ne parle pas pour débattre, échanger. Non. Quand Dieu parle, il crée. Amen. Et si ce matin, ton Dieu tournait ses regards sur toi, qui est un de ses fidèles, et s'il te parlait de paix, et si tu laissais sa parole créatrice créer en toi la paix perturbée, la paix perdue, mais que par sa parole, il va restaurer, relever, et conforté dans ton cœur. Quand Dieu parle, ça équivaut à la chose dont il parle. D'ailleurs, le centurion romain l'avait compris lorsqu'il fait dire à distance à Jésus, « Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus a admiré la foi de cet homme. Et oui, parce que cet homme était habitué au poids des mots. Et il va faire dire à Jésus, moi qui ai des inférieurs, des subalternes, quand je leur dis fais ça, il le fait. Donc il avait compris l'autorité et l'efficacité que contiennent certaines paroles. Alors, les paroles du roi des rois, les paroles du Dieu éternel, quelle autorité! Aucune créature ne peut s'interposer à l'accomplissement de ses paroles. Et mon frère, ma sœur, mon ami, si Dieu, en posant ses regards sur ta personne, te parle de paix, elle devient réalité dans ton cœur. Que sa paix t'inonde ce matin et deviennent réelles et effectives. Gloire à Dieu. Alors, le Dieu de paix peut parler de paix, et pour tous ceux qui sont dans une disposition réceptive, alors il y a le processus de paix qui se met en œuvre. Et j'aimerais citer quelques étapes, quatre étapes. La paix avec Dieu, la paix de Dieu en moi, la paix de Dieu entre nous, la paix de Dieu en tout temps. C'est ça la paix de Dieu. Et ça ne peut commencer que par Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est le commencement. C'est l'expérience originelle. Sans ça, on ne peut pas aller plus loin. Et vous savez, la plupart des comportements fâcheux de l'être humain, si on remonte à la cause originelle, en fait, sont l'expression d'un conflit, d'un désaccord avec leur Créateur. Il faut faire la paix avec Dieu. Nous vous en supplions, disait l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Moi, je me souviens, j'étais un ado de 16-17 ans, et je ne sais pas pour quelle raison. Vous savez, nous, les Arméniens, on a le sang chaud. Hein, quelquefois, ça part vite. Et je m'étais pris avec mon père. C'était un dimanche midi. Là, on s'était brouillé. J'avais eu des paroles pas du tout recommandables. J'étais dur avec mon père, qui n'était pas encore converti. Et moi, ça m'agaçait. Et donc j'ai été, après bon, on a été à la réunion l'après-midi, mais j'ai passé la réunion la pire qui soit, parce que j'avais le remords qui me travaillait, j'avais perdu la paix, et j'avais hâte que la réunion se finisse, non pas qu'elle n'était pas bonne, elle était très bonne pour les autres, mais pas pour moi. J'avais hâte de rentrer à la maison et de me réconcilier avec mon père. C'est ce que j'ai fait dès qu'on est rentré à la maison. La première chose, j'ai été et j'ai pris mon père dans mes bras et j'ai pleuré et je lui ai demandé pardon et j'ai goûté à la paix de la réconciliation. Qu'en est-il alors quand cette réconciliation concerne ma relation avec mon Dieu ? Faire la paix avec Dieu. Devenir maintenant bénéficiaire d'une relation harmonieuse d'amour avec un échange d'une richesse inestimable avec le Dieu contre lequel jadis j'étais positionné, incrédule. L'apôtre Paul nous dit, rappelez-vous, jadis, vous étiez étrangers et même ennemis. Mais il y a eu la réconciliation. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui en veut à Dieu ? Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui rend Dieu responsable de certains événements, de certaines déconvenues ? Alors, avec beaucoup de respect et paisiblement, je te conseille de changer de mode de pensée et de cesser de rendre Dieu responsable de ce que peut-être tu as enduré ici ou ailleurs, et au contraire de faire la paix avec Dieu. Et si ce dimanche matin, c'était le dimanche de la réconciliation avec ton Seigneur, avec ton Dieu. Vous savez, on peut reprocher à Dieu tant de choses, très injustement, hein, mais on peut reprocher à Dieu tant de choses. Si Dieu avait été là, s'il y avait un Dieu, et pourquoi Dieu ? Et tant d'expressions comme cela qui nous volent la paix. Eh bien, ce matin, sans avoir, comment dire, de sentiment d'accusation. Que ceux qui sont concernés par cet aspect des choses puissent venir à ses pieds, dire « Seigneur, pardonne-moi, je veux faire la paix avec toi, faire la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. » Et là se déclenche un merveilleux processus, parce que quand on fait la paix avec Dieu, on a la paix de Dieu en nous. Amen. La paix de Dieu qui descend en nous, qui nous envahit, qui nous inonde. Et irrésistiblement, cette paix, comme une vague bénie, expulse de nous l'amertume, la rancune, les griefs, les idées revanchardes, tout ce qui est acerbe, négatif. Cette vague de paix de Dieu en nous chasse ces choses et instaure ce fameux shalom dont je vous parlais tout à l'heure, ce bien-être indescriptible. Que le Seigneur soit béni. Je ne vais pas le relire puisque Fred, il est où Fred ? Fred, tu m'as volé un verset biblique tout à l'heure. Hein, lorsque tu as lu, c'est Karim. Karim, il a lu Philippiens 4. Hein, c'est Karim. Il a lu ce texte que j'avais noté, qui dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, etc. Ne vous inquiétez de rien, etc. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu en nous. La paix de Dieu en nous. Le Seigneur, en te regardant, te parle de paix. Et en substance, il te dit, je veux que ma paix soit en toi. Il te parle de paix. Je me souviens, parce que c'est une illustration frappante de la beauté de la paix de Dieu dans le cœur d'un individu. Je me souviens, j'étais en train de faire du jardinage et quelques travaux. C'était à Saint-Étienne. Le téléphone sonne, ma femme me dit, on te demande, je lâche tout, je laisse la truelle et tout. Je prends le téléphone et là, j'apprends une nouvelle. Un jeune couple d'incroyants à qui un autre couple croyant avait rendu témoignage, mais ce couple d'incroyants ne vivait que pour le plaisir, l'argent et le profit de l'existence, comme ils disent. Eh bien, ce jeune couple d'incroyants a vu leur bébé à la maison mourir de la mort du nourrisson. Brusquement, brutalement. C'est tombé sur eux. Ils étaient abasourdis. Mais dans leur bouleversement, ils se sont dit, avant même de téléphoner à nos parents, on va téléphoner à nos amis chrétiens. Parce que eux, ils vont avoir les mots justes pour cette circonstance. Ils ont téléphoné à ces jeunes chrétiens. Ils sont venus les visiter, prier avec eux. Et les parents ont décidé qu'une cérémonie d'obsèques se ferait à l'église de Saint-Étienne. Un petit cercueil. Parents, grands-parents, amis, collègues, ils fréquentaient beaucoup de gens, la salle était bondée. L'atmosphère est lourde. Et quand même, on commence la cérémonie. En toute simplicité. On chante deux cantiques, pas plus. Et puis, je m'approche et j'ouvre les Saintes Écritures et je me souviens, c'était un texte du prophète Ésaïe que Dieu avait mis sur mon cœur. Et je lis le texte et j'apporte quelques paroles et puis la cérémonie se termine et à la sortie, les deux jeunes parents viennent me voir. Ils me disent, « Pasteur, on n'était pas du tout croyants. » Mais on vient de vivre quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé vivre. Au moment où vous avez commencé la lecture dans votre Bible, il y a une paix qui est descendue, qui nous a envahis. Et la maman me disait, je sais où se trouve notre petit Simon. Je sais qu'il est au ciel. Le dimanche, ils sont venus tous les deux, et puis encore un dimanche, et de dimanche en dimanche. Ils ont donné leur cœur au Seigneur. Ils ont pris le baptême. Ils marchent avec le Seigneur maintenant. Comment expliquer la paix de Dieu ? Elle surpasse toute intelligence. Interviewons un psychanalyste, un psychiatre, un psychologue. La science des hommes est dépassée. Elle surpasse toute intelligence. C'est la paix miraculeuse. Moi, j'y crois. Et je crois que ce matin, elle peut descendre dans un cœur. Une paix pas rationnelle, pas explicable, pas raisonnable. Elle est divine. Elle est là, et quand elle coule et se déverse dans une âme, elle s'impose et elle chasse en dehors tout ce qui est là pour nous nuire, nous perturber, nous déstabiliser. Eh bien, que la paix de Dieu soit en toi, ce matin, qu'elle t'inonde, qu'elle te remplisse, que le Seigneur soit béni. La paix de Dieu en nous, et puis je disais, le troisième pas, le troisième maillon, c'est la paix de Dieu entre nous. Regardez-vous. Et dites, oui, moi je prie, je souhaite qu'il y ait la paix de Dieu entre nous. D'ailleurs, c'est écrit, hein, c'est une parole que l'apôtre Paul adresse aux Thessaloniciens. Il y a ce texte que l'on connaît et qui dit ceci, tout simplement, hein, 1 Thessaloniciens 5, 13, « Soyez en paix entre vous. » Amen. « Entre vous », j'ai presque envie d'ajouter, « entre vous tous ». Pas dans des petits groupes d'affinités, dans des clans entre sympathisants, entre groupuscules. Non, entre vous tous, soyez en paix entre vous. Alléluia. La paix avec Dieu, la paix de Dieu en moi, et maintenant qu'elle est en moi, il est possible qu'elle puisse régner dans mes relations fraternelles. Je prie le Seigneur pour que toute relation fraternelle perturbée qui pourrait exister parmi nous soit réglée profondément, définitivement, et que nous puissions nous regarder tous les yeux dans les yeux en disant une parole de bénédiction. Alléluia, la paix de Dieu entre nous. Quel témoignage ! Dans une société qui s'écroule, il y a un peuple qui est rempli de la paix de Dieu et qui vit la paix de Dieu. Amen. Et pour cela, eh bien, soyons des artisans de paix. Amen. Il y a des paroles qui vous mettent le feu, mais le mauvais. Puis il y a des paroles qui sont comme un verre d'eau fraîche et qui apaisent les cœurs. Alors ayons ces paroles inspirées, pleines de grâce. Que Dieu soit béni. Et puis, la paix, je disais pour finir, la paix en tout temps, la paix en tout temps, puisque là aussi, eh bien, il est dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Amen. Même si le temps que tu vis aujourd'hui est compliqué, pesant, difficile, il a le pouvoir de te regarder et de te parler de paix et de faire que sa paix va quand même inonder ton cœur. Attendez, ils avaient été tabassés, molestés, saisis violemment, jetés dans une cellule disciplinaire de la prison de Philippe. Ça n'a pas empêché que Paul et Silas chante les louanges du Seigneur et que la paix de Dieu s'exprime en eux. Que Dieu soit béni. Ça peut être dans un temps de deuil, un temps ou dans le milieu professionnel, c'est difficile. Ça peut être au plan familial. Dans bien des domaines du quotidien, il peut y avoir des temps et des circonstances défavorables. Eh bien, que le Dieu de paix vous donne lui-même sa paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. J'aimerais terminer ce message en répondant à une question qui peut-être se pose dans plein de cœurs. Oh, moi, j'aimerais bien ça. Hein. Mais comment ? J'ai essayé, mais comment ? Comment ? Comment ? Alors, j'ai sélectionné pour vous ce matin une série de versets bibliques. Je vais les énumérer, là, et je vais conclure avec un dénominateur commun à ces versets. Écoutons ces versets. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Il se confie en toi. Deuxième verset. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. Troisième verset. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Rejetons, rejetons. Quatrième verset. Oublions ce qui est en arrière. Vous connaissez ce texte ? Oublions, oublions. Et puis encore ce texte. J'ai déchargé son épaule de son fardeau et ses mains ont lâché. Ses mains ont lâché la corbeille. Et le dénominateur commun, c'est ce verbe sur lequel je vais conclure. Lâcher. Lâcher. Parce que quelquefois, on s'accroche. Alors qu'il faut lâcher. Quelquefois, on lâche alors qu'il faut s'accrocher. Il y a des situations où il faut s'accrocher. Hein. Il faut combattre. Hein. Il faut persévérer. Mais il y a des situations, c'est l'inverse, où il faut lâcher. Il faut lâcher certaines choses qui nous font du mal, mais sur lesquelles nous voulons garder un contrôle. Il faut accepter de ne pas contrôler en sachant que Dieu, lui, contrôle tout. Des choses qu'il faut lâcher. Moi, j'imagine le jour où la maman de Moïse a dû lâcher son petit. Vous êtes d'accord que sur un plan humain, il n'y a rien de plus fort que l'instinct maternel. C'est pas vrai ? Une maman, attendez, oh, une maman... Elle est habitée par un instinct tellement fort. L'instinct maternel, c'est fort. Mais il y a quelque chose de plus fort que son instinct maternel, c'est la foi. Et par la foi, elle a lâché son bébé de 3 mois. Elle l'a lâché. Elle l'a mis, vous le savez, dans un petit bateau, là. Elle l'a lâché. Ce n'était pas de l'abandon indigne. C'était un acte de foi. En fait, elle le confiait à l'Éternel parce qu'elle était consciente de ses limites. Alors, elle le confie en l'Éternel. Et pour le confier, elle le lâche. Alors, c'est la main de Dieu qui prend le relais. Quand ta main lâche, c'est la main de Dieu qui prend le contrôle, la gouvernance. Et quand c'est Dieu qui gère, oh, tu peux être en paix. Tu peux avoir la paix. Le lâcher prise. Il y a ce texte, et je termine en citant ce verset. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et dans l'hébreu, Le verbe arrêter, c'est le verbe rapha avec un H à la fin, c'est pas le rapha de guérir, c'est, et qui signifie lâcher. Lâcher, ça veut dire lâcher vos analyses, lâcher vos tentatives humaines pour gérer vos problèmes. Arrêtez, lâchez et sachez que je suis Dieu. Quelqu'un peut-être a besoin ce matin de lâcher un événement de sa vie qui le perturbe et lui interdit la paix intérieure. Lâche, lâche tes souvenirs, lâche tes traumatismes, lâche tes blessures, lâche certaines séquences de ta vie que tu as vécues douloureusement. Lâche-les, il faut les lâcher, pas parce qu'on est lâche et qu'on est démissionné. Non, on les lâche parce qu'on a la foi que c'est désormais Dieu qui les prend en main et qui les gouverne et qui les gère. Pour avoir la paix de Dieu qui remplit ton cœur, tu vas avoir besoin d'accepter que tu ne pourras jamais tout contrôler. Il y a des choses qu'il faut lâcher à la fidélité de Dieu, en disant, Seigneur, je suis aux frontières de mes limites, maintenant, c'est toi qui prends le relais. Et là, j'ai la paix de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui, eh bien, s'occupe de la chose. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, mais il m'est arrivé en décembre d'aller dans un culte, où je pense que je vous l'ai dit, et écoutez, en sortant du culte, j'entends « Pasteur Jean-Marc, Pasteur Jean-Marc !» Et je me retourne, oh, je suis bouleversé de voir toute une famille. La grand-mère, la fille, et 7 petits-enfants, je crois, et une toute petite arrière-petite-fille, 4 générations qui me courent derrière. Je suis bouleversé de les voir ici. Ce sont une famille, c'est une famille que j'avais visité, mais il y a des années en arrière. Et par les circonstances, je l'avais complètement perdu de vue. Mais Dieu ne les a pas lâchés. Il s'est occupé d'eux. Et l'arrière-grand-mère me disait, mais avec une joie, « Le Seigneur est bon !» Ça, je le savais déjà, mais c'est bon de l'entendre. Hein. « Il s'est occupé de nous, c'est merveilleux. Regardez ma famille, il me manque un seul petit enfant non converti. » Et il va se convertir, hein, ça c'est sûr. Hein. Quand c'est Dieu qui prend en main, tu peux avoir sa paix dans ton cœur. Et le comment, c'est le lâcher prise. Est-ce qu'on peut chanter un cantique qui rejoint cette pensée avant que nous nous séparions ? C'est un cantique tout récent.